Hommage de Gérard Klein, avril-mai 1986, à Frank Herbert. Cet hommage en appelle hélas un autre. Frank Herbert est mort à l'âge de 65 ans, le 11 février 1986, au centre d'études du cancer de l'Université du Wisconsin, d'une embolie pulmonaire massive. Il avait subi une opération et s'en remettait de façon satisfaisante en suivant un traitement expérimental contre le cancer, et il travaillait à une nouvelle sur son ordinateur portatif, quand dans l'après-midi, il se plaignit d'un malaise. Il sombra dans un coma dont il ne ressortit plus. Ce n'est pas seulement un auteur célèbre authentique, un écrivain que ses lecteurs français et moi-même avons perdu. C'est aussi un ami. Frank a joué un grand rôle dans ma vie, dès avant que je le connaisse. J'ai lu en 1967 ou 1968, avant les événements de mai 1968, le premier Dune. J'ai été fasciné, et lorsqu'en 1969 j'ai créé la collection « Ailleurs et demain », Dune figurait sur ma première liste d'ouvrages à traduire. Aucun éditeur français ne s'y était intéressé, trop long, trop obscur, trop coûteux. La traduction fut une aventure difficile, le succès fut lent, mais dès la parution en France, dans une indifférence assez générale, je me suis senti fier et heureux d'avoir édité Dune. J'étais naïvement sûr de l'avenir du livre, et je crois que Frank Herbert lui-même a toujours conservé une amitié particulière pour ses admirateurs et éditeurs de la première heure. Je devais rencontrer Frank et Bev quelques années plus tard lors de leur premier voyage à Paris, vers 1975. Nous avons beaucoup parlé, en particulier sur la signification politique et économique de son œuvre. On a dit, non sans raison, que Frank avait emprunté à des traditions et à des œuvres antérieures. C'est le lot de tout écrivain et une constante de la science-fiction. Mais son apport le plus original, le plus profond et peut-être le plus secret, en dépit des apparences, concerne à mes yeux les manifestations du pouvoir, le long terme des sociétés humaines, la politique et le néo-féodalisme multinational où nous sommes engagés. Cet aspect, j'en suis persuadé, apparaîtra de plus en plus nettement à mesure que l'avenir révélera de l'œuvre son côté non pas prophétique, mais prédictif, et en quelque sorte théorique. En bref, son intelligence du présent. Je suis économiste de formation et de métier, est très concerné par le rôle des transnationales, et la fiction de Frank Herbert m'a aidé à proposer des cadres théoriques éclairants pour penser le présent et l'avenir, au moins depuis 1970. Les professionnels font rarement ce genre d'aveu, mais je n'ai jamais hésité à rendre hommage à Frank Herbert devant des auditoires ou dans des textes bien éloignés de la science-fiction. Entre les nombreuses et trop rares occasions que j'ai eues de rencontrer Frank et Bev, je voudrais évoquer deux circonstances mémorables. La première concerne un déjeuner entre Frank et Alexandro Jodorowsky, qui est depuis les années 60 un de mes plus proches amis. L'adaptation, malheureusement avortée, de Dune par Jodorowsky nous avait rapprochés après des années de séparation, puisqu'elle avait ramené Alexandro de Mexico à Paris. Jodorowsky est un homme de très grand talent et de vision, qui n'a pas encore donné toute sa mesure. Il n'est pas facile d'être chilien. Après l'échec du projet Dune, il demeura longtemps blessé et amer. Il avait totalement investi 2 années de sa vie dans cette entreprise qui se brisa sur un refus de distribution des majors américaines. De son côté, Frank était assez réticent à l'endroit des libertés qu'Alexandro avait prises avec son livre. Je voulais les réunir. Nous déjeunâmes finalement ensemble chez Boffinger, près de la Bastille, dans une brasserie alsacienne. Ils arrivèrent un peu tendus. Une demi-heure plus tard, ils étaient les meilleurs amis du monde, échangeant leurs expériences artistiques et philosophiques comme des initiés blagueurs et non comme des gourous. À l'issue du déjeuner, Frank promit à Alexandro de lui confier la réalisation d'un film tiré de Soul Catcher, que j'avais publié en français sous le nom « Le preneur d'âme », si le succès du Dune de Laurentiis lui en donnait les moyens. Le destin en a décidé 2 fois autrement. L'autre fois fut aussi celle où je vis Frank et Bev ensemble, heureux, chaleureux, pour la dernière fois. Ils étaient venus chez moi et je leur avais annoncé une surprise. Quelques minutes plus tard, l'invité que j'attendais sonna à la porte. C'était de passage à Paris, Arthur C. Clarke. Frank ne l'avait pas vu depuis 10 ans. Je ne sais pas s'il l'a revu. Nous avons dîné dans un petit bistrot juste en dessous de mon appartement. Ils étaient très gais, très contents de s'être retrouvés au hasard des voyages. Clerc taquinait Frank en lui racontant comment on lui avait proposé $1 million pour 4 chiffres, 2010, et affirmait n'avoir pas la moindre idée de ce qu'il allait écrire dessous. J'étais moi-même très heureux, mais aussi ce soir-là fatigué, malade, épuisé. Et comme la nuit s'avançait, Bev dit à Frank gentiment « Tu ne vois pas que ce garçon est malade? Il faut le laisser se reposer. » Je devais souvent y repenser. Je n'avais rien que de passager. Elle était malade. Elle savait ce que je ne savais pas, qu'elle allait bientôt mourir. Et je n'ai jamais revu Frank non plus. Il a dû soigner Bev, puis elle est morte. Du temps a passé. Frank a annoncé sa venue et peut-être son installation provisoire dans le midi de la France. Nous l'avons attendu, il n'est pas venu. Un ami l'a croisé à Tokyo par hasard et m'a donné de ses nouvelles. Bonne. Presque une année encore, et son agent me transmet la nouvelle de sa mort. Comme toujours dans ces cas-là, cela m'a semblé d'abord irréel, incroyable. Ces notes sont très personnelles, trop peut-être. J'y parle autant de moi que de lui. C'est que mes rencontres avec Frank Herbert, sur le papier comme dans la vie, furent certainement des événements plus importants pour moi que pour lui et qui se sont inscrits dans mon histoire. Le deuil se nourrit des miettes de la vie. Je voudrais donner à Bev, ici, une pensée toute particulière. C'était une grande dame, avec ce que cela peut comporter de dignité et de distinction, mais aussi de finesse et de tendresse. Elle rayonnait. Lady Jessica lui doit sûrement beaucoup. J'ai été très ému par l'hommage que lui rend Frank en postface de Chapter House, Dune, et par le tableau où il se met en scène avec elle sous les traits du jardinier, comme faisaient volontiers les maîtres flamands de la Renaissance. Je me souviens aussi de l'effort désespéré que tente Mackay dans Dossady pour éveiller le dormeur et lui arracher la possibilité de rejoindre sa bien-aimée. Je comprends et je partage la douleur de Madame Shackelford, avec qui Frank avait choisi de poursuivre sa vie, et je lui demande pardon pour ce que je vais écrire. Mais je crois que Frank a rejoint Bev en le sachant et en le désirant. Et j'espère de tout mon cœur qu'il y a un dormeur miséricordieux qui les a réunis, et un jardin où leurs amis leur rendront visite. Pour la plupart de ses lecteurs, Frank Herbert est d'abord et peut-être seulement l'auteur de Dune et de ses suites. Il s'est vendu de Dune, dans la traduction de Michel Dimas, rien qu'en France, près de 500 000 exemplaires, toutes éditions confondues, ce qui laisse penser que près d'un million de lecteurs francophones l'ont lu. Et le succès comparable des suites donne à croire que ce livre dense, touffu, par certains côtés difficile, a su les retenir. Il est plus caractéristique encore que ces livres, loin d'être des best-sellers à vie brève, continuent, 17 ans après leur première parution en France, à être demandés comme des nouveautés. Je commence à rencontrer la seconde génération des lecteurs de Dune, ceux qui l'ont trouvé dans la bibliothèque de leurs parents, ou qui se le sont vu recommander par eux. Mais Frank Herbert n'est pas seulement l'auteur de Dune, bien au contraire. Il a traité à sa manière totalement originale et généreuse, dans d'autres ouvrages, de deux thèmes complètement absents de l'univers de Dune. Le premier est celui des extraterrestres. Aucun des lecteurs de L'étoile et le fouet n'oubliera l'étoile Caliban, et cette façon géniale dont Frank fait jaillir, de l'entrecroisement incertain de deux trames de langage, le sens. Personne peut-être n'a mieux rendu les vertiges problématiques de la rencontre de l'autre. J'ai d'abord cru ce roman intraduisible, et je n'ai accepté de le publier que lorsque Guy Abadia a pris le risque de le traduire en me prouvant sans contestation possible que mon préjugé était mal fondé. Je sais que Frank Herbert, qui était conscient de l'énorme difficulté linguistique que soulevait la traduction de son livre, a été reconnaissant à Guy Abadia de son effort. Ce thème des extraterrestres, Frank Herbert l'a repris et développé dans Dossady, qui constitue une sorte de prolongement à L'étoile et le fouet, sans en être une véritable suite. Le second thème était plus difficile encore, plus délicat, et secrètement immensément généreux. C'est celui, dans l'espèce humaine, des différents, des handicapés, des monstres. Dans L'incident Jésus et dans L'effet Lazare, qui font suite à Destination vide, Frank Herbert met en scène des mutants, ou plutôt des produits de manipulation génétique heureuse ou malheureuse. Et ce qui est tout à fait exceptionnel, c'est la lucidité et la tendresse avec laquelle il fait parler, agir ces difformes. Et par là, les établit dans l'humanité d'où certains normaux voudraient les exclure. Son projet et son propos sont à l'opposé des utopies peuplées d'athlètes bronzés. Il montre, sans aucun souci de thèse, que l'humanité est à l'intérieur et que le type idéal, s'il existe, n'est celui que de l'animal humain. Un troisième thème, dont dérive indirectement le second, est celui du Frankenstein électronique, de l'intelligence artificielle, qu'il traite dans Destination vide. Ainsi, à travers les figures des extraterrestres, des humains différents et de la créature électronique, Frank Herbert a-t-il élargi bien au-delà des normes communes, des barrières de la peau et des formes de la chair, le concept de l'humanité, en illustrant les valeurs de la diversité, de la pluralité, tout comme il a institué en héros, dans Dune et dans la plupart de ses œuvres, des sujets collectifs, des groupes entiers d'êtres conscients, se constituant en tant que groupe une identité à travers le temps long. S'il a réussi à faire partager ses valeurs par ses lecteurs et à les répandre dans ce monde déchiré, notre reconnaissance, notre admiration et notre souvenir ne doivent pas aller seulement à son talent, mais aussi à sa sagesse souriante. Il n'est pas mort, puisqu'en nous il bouge encore.
Merci et à bientôt chez Audible.